Salutations tout le monde et bienvenue à ce troisième épisode de votre balado liquide. Encore une fois, merci pour vos commentaires plus que positifs à notre égard, ça nous touche beaucoup. Je profite de l'introduction pour vous faire un petit rappel concernant la facturation et la mise en disponibilité des produits. Sachez que votre caisse est toujours disponible 10 jours suivant la facturation et un courriel vous est envoyé à cet égard pour vous informer qu'on est prêt à vous accueillir au restaurant pour récupérer cette caisse. La soupe de cette semaine, de cet arrivage-là, est une chaudrée de maïs. Petit fin historique intéressant. Le terme chaudrée fait référence au contenant dans lequel on produisait la soupe en France, soit un chaudron qui possiblement s'appelait chaudière à l'époque, d'où la déclinaison chowder en anglais. Et le chowder de la côte américaine que l'on connaît aujourd'hui avec ses produits de la mer aurait fait sa progression par un pêcheur breton qui a amené cette recette-là à Terre-Neuve et la recette a descendu avec ses différentes déclinaisons possibles le long de la côte américaine en passant par la Nouvelle-Écosse, la Nouvelle-Angleterre pour finir dans les îles Keys et poursuivre sa progression vers l'ouest à l'intérieur du Midwest américain. Et les fermiers du Midwest américain n'ayant pas accès aux produits de la mer ont décidé plutôt de remplacer les produits de la mer par le classique maïs. Sur ce, bonne écoute! Alors, salut Robert!
Salut Louis!
Ça va bien?
Top shape.
Alors, on vous parle pour ce balado liquide numéro 3 en direct d'une cuisine avec un micro bien orienté et espérons cette fois-ci que le son est de mieux en mieux d'épisode en épisode. Donc, on commence aujourd'hui le balado avec la Loire et on terminera également aussi avec un produit de Loire. Puis Robert, je ne sais pas si tu fais la même réalisation que moi, mais sans même y avoir pensé, depuis les trois arrivages que nous avons, la Loire est une figure importante.
Oui, on boit de plus en plus frais.
Nous avons débuté, je ne sais pas si tu te souviens, le premier arrivage avec un Sancerre blanc, mm-hmm. qui était à base de Sauvignon blanc. Le dernier arrivage, on est allé avec un Sancerre rosé qui était fait avec du Pinot noir. Et j'espère que les gens ont commencé à l'apprécier parce que c'était franchement délicieux. Et aujourd'hui, on commence avec un crémant, puis on va finir avec un saumur champigny. On n'est pas conspirationniste de la Loire, on vous le dit tout de suite, soyez sans crainte. Les vins du Val-de-Loire ne commanditent pas non plus le club de vin. On est dans une neutralité totale, c'est juste un drôle de hasard. Puis ça nous fait réaliser que ben, la palette des vins somptueuses que la vallée peut nous proposer ben, est super intéressante. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
Oui, je pense que la Loire, c'est une complexité qui défie l'entendement, ne serait-ce que par sa longueur hein, et par la typicité qui est vraiment régionale dans chacun des cas des cépages. Là. On parle de Méditerranée, puis on s'en va pratiquement jusqu'à Chablis. Là.
La Méditerranée?
Oui, de l'Atlantique, pardon.
Et puis je pense que c'est de par sa diversité, de par aussi le bagage d'expérience qu'on a, mais c'était naturel et organique de choisir des vins de cette région-là sans le vouloir. Et aussi qui ont un bon rapport qualité-prix également. Mm. Et je suis pas mal sûr, n'hésitez pas à nous transmettre là, si les vins de la Loire que vous avez dégustés jusqu'à présent étaient dans votre palette aromatique, mais c'est pas mal sûr que dans les 7 autres arrivages qu'on va avoir, il va probablement se retrouver d'autres produits de la Loire. On n'a même pas touché encore à la Loire Atlantique, qui sera un autre sujet. Donc, après Sauvignon Blanc et Pinot Noir, pour le crémant, on s'en va avec un cépage qu'on adore, qui est le Chenin Blanc. Chenin Blanc, qui est un super cépage que l'on retrouve massivement planté dans la vallée de la Loire et principalement dans un autre endroit dans le monde, soit l'Afrique du Sud. Pour sa présence au Cap de la Bonne-Espérance, ce sera pour un autre balado, on vous le promet, mais pour aujourd'hui, on va se limiter à la Loire. Et sa présence est surtout concentrée autour des sols argilo-calcaires tendres que l'on nomme le tuffeau. Dans cette région-là, et principalement dans le centre, donc entre l'Anjou-Saumur et Touraine. Donc, pour vous situer sur une carte, c'est principalement entre la ville d'Angers à l'ouest jusqu'à Orléans à l'ouest. Et pour ceux qui connaissent leur vallée de la Loire par les châteaux, bien, ça serait entre le château de Serran à l'ouest jusqu'au modeste camp de chasse de François Ier, j'ai nommé le château de Chambord à l'est. Pour ceux qui n'ont pas visité ce château-là, c'est à faire. Pauvre lui, il n'a même pas pu l'habiter même un an. Donc, il faut savoir que près de 70% du Chenin Blanc qui est poussé dans la région sert à faire du crémant de Loire. Donc, la version qu'on a aujourd'hui, ça répond quand même à 70% de la production. Et le crémant est un peu le penchant du champagne hors champagne, dans le fond. Donc, les comités des appellations d'origine contrôlée ont créé, au tournant des années 90, les appellations crémant. La champagne qui travaillait d'arrache-pied dans le but de conserver le nom champagne, la méthode champenoise, ont laissé aller le terme crémant. On n'ira pas là-dedans, mais le terme crémant était associé à la champagne, qui était comme un...
C'était péjoratif un peu, d'ailleurs.
Ouais, c'était péjoratif, parce que c'était associé à un mousseux qui moussait à moitié.
Il crémait.
Exactement. Donc, crémant, donc le vin qui crème. Et donc, Champenois a dit, bon, ben on va vous laisser votre propre appellation, amusez-vous avec ça. Et dans le fond, vous avez différentes régions à travers la France qui produisaient des mousseux élaborés selon la méthode champenoise, que l'on dit maintenant traditionnelle, et qui avait quand même une identité terroir. Exemple, le Chenin blanc pour la vallée de la Loire, les différents cépages alsaciens en Alsace, j'en pense des meilleurs. Aujourd'hui, on a 7 ou 8 appellations crémant avec mention régionale, et crémant Loire, c'est parmi les premiers. Là. Donc, en ce qui concerne le produit qu'on a aujourd'hui, on est sur la cuvée les Quarterons crémant Loire par domaine Armiron, qui a une mention brute. Donc, lorsqu'on parle de brut, on est à moins de 10 grammes par litre de sucre résiduel. Et on est en 100% chenin blanc. Et on a un élevage sur lappe de 18 mois. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, Robert, c'est quoi un élevage sur lappe de...
Oui, en fait, après la deuxième fermentation, on va laisser les vins se reposer, en fait, pour que les levures qui sont à l'intérieur de la bouteille, qui ont provoqué la seconde fermentation, s'autolisent, en fait, s'autodigèrent dans la bouteille. Et donc, on couche les bouteilles et puis on les laisse vieillir, en fait, s'élever, faire l'élevage, mais en bouteille. Et puis, éventuellement, ben, quand on sera tanné et que notre fond de roulement sera à sec, on fera le dégorgement et puis on mettra donc ces bouchons-là, les bouchons sur les bouteilles. C'est pour ça que toutes les bouteilles de méthode traditionnelle ont cette forme de bouchon qui porte d'abord une couronne de bière, en fait, des capsules qu'on met sur la bière, et puis après de ça, c'est remplacé par un bouchon de liège plus traditionnel, celui qu'on va faire sauter à la fin. Là. Mais donc, l'élevage sur latte, c'est le temps d'élevage alors que la bouteille est couchée.
Donc, 18 mois, ça commence à faire long. On s'entend que 12 mois, c'est quasiment un standard ou un minimum à travers les différents producteurs de mousseux de type méthode traditionnelle. À partir de 18 mois, on commence à avoir une complexité aromatique. Et de ce côté-ci, on est vraiment sur des... En partant, lorsqu'on parle de chenin, naturellement, les fruits de verger viennent... Ouais,
Granny Smith.
Exactement. Pomme Granny Smith, la poire aussi, la poire qui n'est pas tout à fait mûre. Mm-hmm. Et en bouche, c'est sec. Les bulles sont d'une finesse vraiment assez impressionnante.
C'est très beau. On oublie... La popularité du Cava puis du Prosecco nous a fait oublier récemment les créments français. Encore récemment, j'en buvais un du Jura. Ça a un caractère, en fait, très régional qui rend la bulle un peu secondaire.
Exact.
Ça, c'est intéressant aussi parce que, oui, on boit des bulles parce qu'il y a une célébration, parce qu'il y a une fête, mais des fois, on veut boire un vin qui est devenu une bulle. Et dans ce cas-ci, c'est ça.
C'est ça, exact. Et même aussi, on recommande souvent de consommer les bulles dans les 5 à 7 années après la commercialisation, parce qu'il y a quand même une perte de pétillance, il y a une perte de pression dans la bouteille naturelle. Mais il faut toujours se rappeler qu'au-delà de la bulle, comme tu dis, il y a un vin derrière ça et il y a une évolution aussi dans ce vin-là, il y a une complexité aromatique. Et effectivement, les Prosecco, certains Cava, laissent au détriment de tout ça. En ce qui concerne le domaine Armiro, il est basé... c'est la Agnès Armiro, donc à ne pas confondre, les Armiro sont un peu comme les Tremblay au Saguenay, là, il y en a beaucoup dans la vallée de la Loire. C'est un domaine qui est basé sur l'aire d'appellation Saint-Nicolas de Bourgueil, donc ils font du rouge, et après ça, sur leur cuvée en blanc, c'est principalement un travail autour des bulles. Ça, c'est leur cuvée entrée de gamme, leur cuvée porte-étendard, donc ils font un peu plus de volume, ils achètent du raisin aux alentours, mais l'ensemble de la propriété est en lutte organique et biodynamique. Et ça reste une très petite production. Alors, donc super produit, puis ça se boit tout seul. Sinon, en apéro, avec, c'est sûr que les huîtres seraient toujours un classique avec ça, mais n'hésitez pas à vous faire une mignonnette, justement, avec une petite brunoise ou une macédoine, mais de pommes vertes, justement, de pommes Granny Smith, ça pourrait être super intéressant.
Petite mousseline de fromage sur votre pomme, là, ça
aussi.
Un petit côté intéressant. Mais bon, vraiment un beau vin qui nous rallie à l'appellation des crémants. Deuxième vin?
Oui.
2019 Etna Bianco de la famille Planeta, de la maison Planeta. En fait, c'est pas la famille Planeta, mais c'est la maison Planeta. Fait que là, on part en voyage sans prendre l'avion, heureusement. On s'en va dans l'Etna avec le vignoble de Monte La Guardia, au nord de l'Etna. En fait, bon, l'Etna, c'est évidemment le volcan. Hein.
C'est évidemment. Sur quelle île en Italie?
Oh là là, quelle question piège!
Je sais pas.
La Sicile. Excusez-moi, j'aurais dû commencer par l'appellation géographique. On est en Sicile, juste devant Napoli, si vous tournez vers la droite. Donc, sol cendré, de lave récente, en fait, le côté nord de l'Etna, un profil de sol de lave. En fait, l'Etna, évidemment, là, c'est évidemment le volcan. Donc, il y a évidemment des roches volcaniques. Il y a évidemment un sol un peu cendré, il y a vraiment un sol qui est particulier. Et chacune des faces de l'Etna a ses particularités. On évite la face ouest en général, mais au nord, on travaille bien. À l'est, on a des vignobles très, très qualitatifs aussi. C'est la seule appellation en blanc qui est supérieure, là, je crois, qui est à l'ouest, c'est ça. Et au sud, vous avez plus des vignobles qui vont porter le rouge, les cépages rouges donc de l'Etna que je cherche en ce moment.
Donc, Nerello Cappuccio et Nerello Mascalese.
Alors,
et la phase qu'on attend d'éviter, là, juste que vous compreniez bien, c'est que puisque c'est un volcan qui est excessivement actif, c'est la phase qui reçoit en ce moment toutes les jeunes coulées de lave. Donc, il fait un peu chaud et c'est un peu dangereux à exploiter versus les autres contreforts de ce mont-là sont exploitables au niveau de la vigne. Donc.
Exactement. Alors, dans ce cas-ci, on a du Caricante à 100%, qui est vendangé à mi-octobre. Il fait très chaud dans ce coin-là, donc on réfrigère rapidement les raisins, pressurage léger, vinif en inox et puis un petit peu de barrique, 15% de barrique. On garde les vins sur les lits jusqu'en février. On va embouteiller au printemps. Potentiel de vieillissement de 7-8 ans, c'est pas très alcooleux, c'est 13-13,5 je pense. Note classique en fait de cassia, de fruits à noyaux blancs. Moi, je un petit peu de poire aussi.
Et soutenu par la trame cendrée. Là.
Vraiment, ouais, la trame minérale.
Le fameux côté minéral, lorsqu'on demande des vins minérales. Là, qu'est-ce que, donc, ici, on pourrait vraiment parler de la minéralité du vin qui est amené, oui, par le sol, mais qui est amené aussi avec l'environnement autour, là, puisqu'on est sur un volcan volcanique, mais en rétro-olfaction, donc en, pas au coup du nez, mais vraiment en bouche, on sent ce côté-là là, cendré qui n'est pas tout le temps probant dans chacun des vins de l'Etna, là, mais là, ici, c'est...
Mais en fait, c'est que souvent aussi, il va être assemblé, les blancs d'Etna en DOC vont souvent être assemblés avec du Catarato, qui est un petit peu austère, on va le dire, et qui selon moi, diminue les assemblages. Donc, c'est assez rare que tu aies du Caricante. Caricante, ça veut dire chargé en italien, parce que la grappe est très grosse, et donc c'est une grappe chargée. C'est une grappe aussi qui bénéficie, qui est indigène du sud de l'Italie, et qui bénéficie des vents, parce que les grappes chargées, peuvent développer de la pourriture parce qu'elles sont tellement compactes que si l'eau se ramasse entre les raisins, il y a de la pourriture. Tandis que sur, justement, la Sicile, on a un côté très, très venteux. Ça va expliquer que certains Etna blancs vont avoir cette légère salinité. Là. Dans le cas de Planeta, ce n'est pas du tout ça. On est vraiment sur un vin de lieu, mais qui tient compte du palais contemporain, si j'ose dire. Planeta, vous allez retrouver un SAQ. Ils ont plusieurs gammes. Ils ont 5 lieux qui travaillent en Italie, dont le Chardonnay Planeta, là, qui est assez connu. Ils ont du Frappato aussi. Et finalement, dans Etna, je ne sais pas si c'est disponible, oui, mais cette gamme-là d'Etna, ils font du Eruzione 1614. Et l'Eruzione 1614, il fait référence à l'éruption de l'Etna en 1614, éruption qui a quand même duré 50 ans, n'est-ce pas? On rigole pas.
Alors, et c'est sur ce côté-là que les vignes sont plantées.
Exactement. Et moi, tu vois, à vue de nez, j'étais encore en mode apéro avec du Gravlax, un saumon un peu gras qui soutiendrait ça, ou encore un saumon assez fin, là, un flétant ou... un péton, même chance, ça ferait le travail. Là. C'est vraiment un beau vin. Il y a un petit côté, comme tu disais, la rétro. On dirait qu'on a un petit 15% de barrique là, qui revient, mais c'est léger.
Ouais. Et si je peux me permettre, donc Robert parle de les éruptions qui ont lieu très très longtemps. Là, en ce cas-ci, moins en blanc, mais beaucoup plus en rouge, on a quelques vieilles vignes quasiment centenaires de ce côté-là qui ont survécu, mais l'émancipation vitivinicole du Mont Etna remonte par contre seulement aux 30-40 dernières années avec un des pionniers qui est Marc de Grazia. Je ne m'étendrai pas sur le sujet.
Non,
donc,
le camion vient de passer.
Aujourd'hui, on se la joue Jean-Michel Blais, donc c'est le pianiste qui a enregistré son album dans sa maison avec les fenêtres ouvertes, donc on entend les camions. Donc c'est un peu un rappel. Mais bref, revenons au vin. Marc de Grazia, qui est basé à New York, qui a vraiment mis la plupart des micro-producteurs de vin du Piémont sur la carte aux États-Unis, a vu le potentiel du Mont-Etna et a fondé le domaine Tenuta de Terre Nere. Dans la section balado, je me ferai un plaisir de vous déposer dans les commentaires quelques sites web. On va s'y référer aujourd'hui pour d'autres choses aussi. Un super documentaire d'une heure qui se loue sur différentes plateformes à 99 centimes. Là, c'est vraiment imposant, qui raconte un peu l'histoire de Marc de Grazia et son implication dans le vin au Mont-Etna et dans le Piémont. Donc, je ne m'étale pas plus, mais vraiment, franchement, très beau travail. On reste en Europe pour le prochain vin. Robert, on s'en va où?
On s'en va en Espagne. Encore une fois, sur la Méditerranée, en fait. Et dans ce cas-ci, on s'en va à Utiel avec Kenya. On a, vous êtes juste présenté un vin de cette maison-là il y a quelques semaines. On reste dans la province de Valence, donc Valencia, l'appellation de Valence, qui a ces deux villages, Utiel et Requena, et Finca San Blas est à Requena, 40 000 hectares dans cette appellation-là. La majorité étant du Bobal, mais dans le cas qui nous concerne ici, on vous présente deux raretés. En fait, ce vin-là a deux particularités. Il fait appel à un cépage qui est indigène de la Méditerranée espagnole, qui est le Mercéguera, qu'on a ici assemblé avec du Chardonnay, ce qui est une bonne chose par ailleurs. Et l'autre particularité de ce vin-là, c'est qu'il est en Solera. Il y a une partie de Solera là. Donc, parlons d'abord du Mercéguera. Le Mercéguera, écoutez, c'est un cépage qui, comme plusieurs cépages blancs, n'aurait pas nécessairement passé à travers le 20e siècle s'il n'y avait pas eu des avancées au niveau de la vinification. C'est un cépage qui est à vue nez comme ça, pourrait être considéré un petit peu insipide, un peu incolore, un peu manqué de caractère, mais les vinifs à froid, les vinifs en inox sont capables de préserver une certaine fraîcheur. Sa particularité première, en fait, c'est d'être capable de résister à la chaleur qui est très, très forte dans le coin de Valence, dans le coin de... c'est un cépage aussi qui est dans les îles et qui est en Penedès. Et donc, il était considéré comme un cheval de trait, en fait. On le mettait pour asseoir des vins de soif, aussi très, très considéré pour faire des vins doux. On en a un, justement, qui ne sera probablement pas dans le club de vin, mais qui
pourrait
déguster au cavis, et ou des vins oxydatifs. Donc, c'est un cépage qui a une raison d'être historique. A déjà été planté à une échelle assez respectable. On parle de sensiblement 9-10 000 hectares au début des années 2000. Maintenant, on est rendu à 2000-2002. Ce n'est pas un cépage qui a une grande portée en dehors de l'Espagne. C'est, si vous allez à Valence, fort probable que vous en buviez. Là, on en a importé avec Finca San Blas. Et autre trait, c'est que c'est un 2015 et il y a un caractère oxydatif là-dedans qui est assez intéressant. Louis, ça t'a frappé, je pense, quand on voit la bouteille, c'est au nez. On est ailleurs, on n'est pas dans les blancs de soif. Là.
C'est vraiment un vin qui va vous dérouter. Donc, il faut vraiment... c'est arrivé par le passé dans les deux précédents balados que j'ai parlé d'intellectualiser un vin ou de ne pas l'intellectualiser, donc de le prendre de par lui-même, de le boire, puis de juste de prendre une gorgée après une gorgée. Ça, c'est vraiment un vin à intellectualiser. Si vous êtes une grosse tablée à mettre en carafe, si vous êtes juste deux personnes, faites juste le laisser s'ouvrir, il va prendre l'expansion dans le verre, il va s'ouvrir, il va gagner en complexité aromatique, mais c'est sûr que mener là-dedans, c'est pas un vin que tu as la coutume de boire tous les jours, mais il y a une grande complexité. C'est un vin de gastronomie, c'est un vin de repas. Et donc, comme tu dis, c'est 2015. Sachez que dans les lois européennes, à quelques exceptions près, lorsqu'on fait mention d'un seul et unique cépage ou d'un seul et unique millésime, donc une seule et unique année de récolte, on a toujours une marge de manœuvre de 15%. C'est la norme vraiment de l'Union européenne. Donc, quand on mentionne mettons, on va vous dire sur le cépage, l'étiquette Cabernet Sauvignon, mais ça, on peut y aller jusqu'à 85% ou plus. On a une 15% de marge de manœuvre. Pour la mention du millésime, c'est la même chose. Donc, on parle ici sur la bouteille de 2015, mais si vous regardez la contre-étiquette, on parle d'une Solera qui remonte jusqu'à 2008.
Donc, c'est 2008. En fait, la Solera qui est là-dedans, c'est de 2008 à 2015. Donc, la Solera, c'est une ancienne façon de vinifier qui était présente surtout dans le coin de Relès et puis dans les vins où on avait à Madère aussi. Ça faisait appel aux besoins que le vin avait de se préserver avant qu'on invente les sulfites, avant qu'on invente la vinification moderne. Donc, c'est essentiellement le vin jeune éduque le vin vieux. Et là, vous tapez Solera sur Google, là, mais vous c'est essentiellement une pyramide où vous mettez votre première vendange et la deuxième année, bien, vous soutirez, mettons, la moitié de votre barrique et vous la remplissez de la deuxième vendange. La troisième année, vous soutirez le tiers, vous la remplissez par le tiers de la troisième vendange, et ainsi de suite. Donc, le vin vieux va être éduqué par le vin jeune à chaque année. Dans le cas qui nous concerne, donc, le 2015 et le millésime le plus récent, et de 2008 à 2015, on a un 15% de Solera. Donc, c'est comme si 15% du vin avait un 7 ans d'assemblage. Donc, vous avez du 2008, du 2009, du 2010, 2000, ainsi de suite, sur 15%. Ça va amener cette complexité-là. C'est un choix éditorial de la maison qui est vachement intéressant. Pour vrai, ça amène le vin ailleurs. Mm-hmm. Ça lui donne... Tantôt, Louis-Jacques disait « Jasmin, thé vert ». Moi, j'appelais du balsamique blanc. On va vraiment ratisser large au niveau de la trame aromatique. En bouche, quand même une belle fraîcheur, une belle acidité. On n'est pas, c'est pas quelque chose balancé, de plat, c'est balancé.
Toi, tu avais un accord, vraiment.
Moi, je disais viande blanche avec une simple volaille farcie avec du chèvre. T'sais, je ramènerais un corps gras, mais je garderais le côté viandeux.
Donc ça, ce serait un accord à table.
Oui.
Puis accord apéro, moi, tout de suite, quelque chose que j'aime faire des fois, c'est d'acheter une ricotta de très bonne qualité. Et souvent, ces ricottas-là sont prêts comme détrempés, donc leur eau de espèce de saumure va avoir été déjà relâchée. Mais si vous achetez une ricotta du marché, là, vous pouvez littéralement la faire s'égoutter une nuit, là, donc le temps d'une nuit. Et vous mettez du miel là-dessus, ouais. Vous mettez un peu d'épices, du cumin, différents trucs comme ça. Puis vous faites juste prendre des croutons avec un bon pain, une bonne qualité, un bon pain au levain. Et ça va être superbe. Là. Donc, ouais. c'est un beau partenaire de table. En boire une bouteille toute seule sans rien manger, c'est peut-être pas, on n'est peut-être pas là.
Peut-être pas.
Par contre, avec le prochain vin, on s'en va peut-être là. Donc, on s'en va sur...
Samso, est-ce que tu vas être capable de faire moins que 10 minutes sur Samso?
Alors, je vais tenter d'être bref. Je suis très fébrile de voir cette cuvée-là arriver dans la revanche du Club de vin. Le millésime 2020 de cette cuvée-là marque le deuxième anniversaire. Et il y a un petit peu de nous là-dedans. Quand je dis du nous, c'est de caviste. Donc, le domaine Caz, qui est le domaine familial qui appartient à la famille Lavaille, qui est géré par Lionel Lavaille, fait partie d'un regroupement de vignerons français qui se nomme Advini. Advini est très, très présent sur le marché québécois à travers leur marque. Leur marque, c'est quoi? Bien, c'est le domaine La Roche en Bourgogne. C'est la famille Jean-Jean dans le Languedoc-Roussillon. Derrière qui vous avez déjà bu du Pive Rosé, c'est sûr et certain. Augier à Châteauneuf-du-Pape, j'en passe, mais c'est un gros regroupement de familles de vignerons qui sont là depuis plusieurs générations, qui ont décidé de se créer un consortium pour, de un, faciliter exportation, comptabilité, tout ça. Mais chaque domaine a sa figure emblématique. C'est sûr que vous avez déjà rencontré Brigitte Jean-Jean dans les festivals. Lionel Lavaille aussi, des fois, est sur le marché, peut-être un peu moins souvent. Lionel était au Québec, croyez-le non, en février 2020. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais si on remonte en février 2020, c'était avant que l'apocalypse commence à s'installer. Et donc, Lionel fait souvent son voyage annuel au Québec en hiver pour venir profiter...
Des traîneaux à chiens.
Des traîneaux à chiens, vraiment le classique. Motoneige, traîneaux à chiens. Et à travers cette voyage-là, il amène la famille, les enfants, la femme et inclut aussi un peu de travail. Et à travers cette semaine-là, on a eu le plaisir de le rencontrer et il a fini son parcours, le souper au caviste, je me souviens très très bien, 14 février, donc le soir de la Saint-Valentin avec sa famille. Et puisqu'il est basé dans le Languedoc-Roussillon, les cavistes, vous allez le voir, vous l'avez déjà vu, on est passionné d'Afrique du Sud. J'ai une passion personnelle pour le cépage qui est le cinsault. Le cinsault qui est une figure importante en Afrique du Sud et dans le Languedoc-Roussillon. Dans le Languedoc-Roussillon, n'est pas mis de l'avant dans un vin rouge de par lui-même. Elle sert beaucoup à faire du rosé, donner du kick, donner de la fragrance au vin rosé. Et les Français, on peut laisser à l'abandon ce cépage-là, mais comme Robert, tantôt tu parlais de cépage qui résiste à la chaleur, c'est un cépage qui est résistant au stress hydrique, qui est résistant à la chaleur, dans un contexte de réchauffement climatique, il a sa raison d'être, et en plus, naturellement, il donne des niveaux d'alcool plus faibles. Donc, j'ai quizé Lionel sur ce cépage-là, puisqu'il est basé dans le Roussillon, et il me dit, « Ah, mais Louis, on a un peu de cinsault, on a arraché nos vieilles vignes, mais pour l'instant, la plupart du cinsault que nous avons, on vient l'assembler en complément d'assemblage sur nos cuvées. » Tantôt, je vous parlais du fameux 85%. Donc, le cinsault va être inclus à quelques petites quantités de pourcentage dans l'ensemble de ces cuvées. Mais disons, on n'a pas trouvé de quoi faire. J'ai dit, c'est intéressant. Viens souper au caviste. Il me laisse carte blanche au niveau de la dégustation des vins. J'avais le cinsault bien ancré dans ma tête. Je lui fais découvrir à l'aveugle un cinsault d'Afrique du Sud. Il goûte ça. Il trouve que c'est franchement excellent. Donc, je lui démontre. Je dis, c'est du cinsault. On s'en était parlé la semaine dernière. Lors d'une formation plus technique. Et lui, de me répondre, là, c'est drôle que tu me parles de ça. À bien y penser, je t'ai dit que oui, le cinsault est tout le temps incorporé dans les assemblages. Mais c'est drôle parce qu'en ce moment, depuis la dernière vendange, quand on s'assoit pour l'heure du goûter le midi, les ouvriers agricoles, pensez pas que les ouvriers agricoles d'un domaine s'abreuvent et s'hydratent à l'eau, ils s'hydratent au vin. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils se prennent une espèce de carafon, ils s'en vont dans la cuverie et ils vont se verser un petit demi-litre de vin. Et il me dit, depuis la dernière année, le seul demi-litre qui se verse, c'est la cuve de cinsault qui sert en assemblage. Maintenant que tu me dis que ça peut se goûter comme ça, il dit, on va en faire une cuvée. Donc, 2019 marque l'avènement d'une cuvée et par contre, le milieu du vin s'est littéralement fermé sur lui-même de par la pandémie. Donc, il n'a pas pu exporter trop son premier millésime dans les premières années. Il a donc dû le présenter au bistrot cave à vin de la région du Roussillon. Ouais, exactement. Et il me dit, c'est drôle, Louis, il dit, succès commercial, fou. On est rendu, là, vous avez le deuxième millésime. Dans les mois à venir, on va avoir le troisième millésime qui va arriver. Et donc, éventuellement, il y a peut-être même un potentiel à s'en aller en SAQ. Et fait intéressant, le domaine Caz est entièrement en lutte organique, aussi certifié, biodynamique également. Le vin est techniquement nature, donc aucun sulfite n'a été utilisé dans l'ensemble de la production. Et on est sur un 100% cinsault qui tire, Robert, 11% d'alcool.
Ouais. C'est le montant de tes royautés aussi, hein, je pense.
Exactement. Non, mes royautés sont plus à 0%. On ne ferait pas de vin avec les royautés. Mais par contre, ça me fait plaisir de le partager. J'ai tenté d'être le plus bref possible, mais pendant la pandémie, on s'est amusé. Je vais vous mettre dans les commentaires un lien vers une vidéo YouTube où on expliquait la genèse de tout ça de plus en détail.
Plus en détail, c'est sûr.
Plus en détail. Ah oui. Et Lionel en profite aussi pour parler du domaine. Donc,
c'est un vigneron avec lequel on va vous surprendre au courant de l'année qui vient. Là, puis plein de surprises avec Lionel là, pour le 10e anniversaire des cavistes. C'est quelqu'un qui est un amoureux du Québec et c'est une bonne personne, en fait.
Ouais,
c'est une personne agréable à... Tu sais, dans notre milieu, on est tout en train de picoler, on jase avec les gens, mais Lionel, c'est quelqu'un de... C'est quelqu'un qui est groundé, il a des belles valeurs, son domaine est géré en conséquence, et puis c'est une personne à qui tu peux parler. Vas-y, Louis. Tu comprends pas? T'as pas de commentaire de dégustation?
C'est un vin qui est porté sur le fruit... Ça, c'est un vin que tu intellectualises pas, selon moi. Tu le bois, tu le sers très frais. C'est vraiment le rouge d'apéro pour les gens qui n'aiment pas le rosé ou qui n'aiment pas le blanc. C'est parfait pour ça. Plateau de charcuterie.
Clairement. Excuse-moi, j'arrête le bouchon.
Donc, c'est vraiment... j'ai rien d'autre à dire. Là. Je veux dire, ça se boit à grande lampée, puis c'est superbe.
Et ça, c'est dans les vins qu'on pourrait avoir en dehors du club, hein? C'est ça?
Éventuellement, ouais. Sur l'arrivage 2021, ouais. C'est quelque chose qu'on pourrait avoir, effectivement.
Et sinon, en Saint-Saul, on a aussi en SAQ le Nate Valley, qui est un peu différent. En
fait. Effectivement, mais dans le fond, c'est très bon ce que tu dis, c'est Robert. Le Saint-Saul de Nate Valley, donc la genèse, le vin que Lionel a goûté. Le vin que Lionel a goûté à l'aveugle qui l'a inspiré ce vin vient tout juste d'arriver en SAQ. Je vais mettre les références aussi SAQ, donc pour que vous puissiez vous procurer ça. Ça vient tout juste d'arriver en SAQ. La distribution est quand même intéressante. Ce qui nous amène à parler d'Afrique du Sud.
C'est notre premier vin d'Afrique du Sud de l'arrivage, je crois. Je crois que oui, ce qui est étonnant parce que...
Ça va en avoir d'autres.
Alors, Copper Pot, ne vous fiez pas à l'étiquette qui est minimaliste, hein, n'est-ce pas? Copper Pot, c'est un rouge de John Secombe de Thorn and Daughters. John Secombe, pour ceux qui l'auraient croisé au caviste lors d'une dégustation mémorable, en fait...
En 2018.
Plusieurs personne se souvient de John Secombe, c'est une personne assez intéressante, assez volubile et complètement typée sud-africain, bon enfant, grand beau bonhomme, et puis tout ce qu'on pourrait vouloir d'un vigneron. John, donc, c'est le spécialiste des blancs. Et quand on s'est rendu en Afrique du Sud, lors d'un très récent voyage en Afrique du Sud, en fait le seul, il y a 4 ans maintenant, On était dans une boutique de vin par hasard, puis je vois une bouteille de Copper Pot. Puis là, je dis à Louis, ah, c'est bizarre, c'est John Secombe qui fait ça. Puis on vient de déguster ses vins, mais il nous a jamais parlé de ce rouge-là. Et c'était une production minimaliste qu'il faisait pour sa famille. Sa famille a une auberge dans le KwaZulu-Natal. KwaZulu-Natal, pour ceux qui se demandent, c'est où?
C'est 17 heures.
C'est ça. C'est Durban, en fait. C'est vraiment l'autre bord de l'Afrique du Sud. Et donc, il faisait ce vin-là comme un vin de table pour l'auberge de sa famille. Et compte tenu de la demande, autant Louis a poussé sur le Saint-Saul, moi j'ai poussé sur le Pinot Noir. On a demandé à John, ben écoute, serait-ce possible d'en avoir nous un petit peu en location? Fait qu'il il s'est mis à en faire un peu plus, je crois. Hein?
Oui, c'est exact. Ça. Donc, 2018, je pense, son premier millésime vraiment restreint, et lui d'être un peu surpris de comment ça se fait que mes deux amis québécois, deux jours après le salon des vins, s'amusent à travers l'Afrique du Sud et tombent par hasard sur ce vin-là, puis tu fais comme, comment ça se fait que vous avez trouvé ça, mais ça c'est pas grave, c'est juste très très drôle. Et là finalement, sur l'arrivage qu'on vient tout juste de recevoir,
Copper Pot, c'est différents vignobles de l'Overberg. Overberg, dans le Western Cape, dans l'Afrique du Sud, là, Western Cape, c'est pas mal partout où on fait du vin. Ben, on est sur un peu plus vers l'ouest, vers l'océan Indien. On est vraiment exposé. Donc, la plupart de son pinot noir vient de là. Donc, c'est un pinot noir qui va être bien exposé à l'air. C'est des sols argilo-calcaire et de schiste. Donc, il y a une mise en valeur du pinot noir. Le nez est assez riche, est assez gourmand. Un nez non éduqué, comme le mien, en fait, pourrait détecter du bois, hein, mais ce n'est pas du bois, on me l'a confirmé tout à l'heure. C'est une vinification en grappe entière qui va provoquer donc ce côté un peu... Comment tu l'appelles? Séveux. Hein, je ne sais pas si c'est un mot, là, mais séveux, c'est donc le côté branche cassée.
Prenez une branche, là, vous avez, quand vous étiez jeune, cassé des branches fraîches avec le... Mettez le nez, ça sent ça.
Alors, moi, je vous défie de vous rendre dans un bar à vin huppé de Montréalais et dire « Ah, c'est un petit côté séveux dans ce vin, alors qu'on pourrait à l'aveugle détecter du bois neutre, mais ce n'est pas le cas. » Donc, John fait ce vin-là en grappe entière et fait de la barrique, 9 mois d'élevage, en dégustation, en barrique neutre. Donc, c'est pas vraiment le bois qu'on recherche. 2020, c'est un millésime particulier pour l'Afrique du Sud, particulier pour le monde entier, mais après 2018 et 2019, qui étaient des années de grande chaleur, 2020, c'était un millésime exceptionnel. En 2020, l'Afrique du Sud, comme tout le monde, était en lockdown majeur. 3 prohibitions. Et c'était... ils ont dû demander une dérogation au président, parce qu'en mars 27 mars, comme nous, ils sont tombés en lockdown complet. Et il y avait encore des raisins sur les pieds de vigne, donc on a dû argumenter pour pouvoir vendanger. On a fini par vendanger, mais il y a vraiment eu 3 prohibitions. C'est un sujet sur lequel on pourrait s'étendre, mais pas aujourd'hui, puisque 33 minutes. Mais c'est assez fascinant de voir que ces gens-là sont passés à travers. Et quand ils sont sortis en 2021 de la troisième prohibition, on est tombé en vendange avec un millésime excessivement humide. Et il y a eu un gros coup. Le vignoble sud-africain va tarder à se remettre de ça, je pense. John, vous voyez ce vin-là, on l'a commandé en août l'an passé, Louis?
Oui.
Et on vient de le recevoir.
Le temps que ça a pris de partir de l'Afrique du Sud jusqu'au Québec, avec les réalités de l'Afrique du Sud, de la SAQ, tout ça, c'est plus long que le premier voyage de Jan van Riebeek. Son premier voyage sur le Cap a pris moins de temps entre la Hollande et l'Afrique du Sud que le vin a pris. Mais bon, il est arrivé à mon port.
Très bon vin, rapidement.
Et Robert vous a appâté sur ses blancs. C'est sûr qu'on revient sur les blancs.
C'est ça. Et puis moi, perso, là, je lui donnerais un petit peu de gras. Un cheeseburger au bleu, quelque chose un petit peu pensé que vous êtes en train de faire un braai en Afrique du Sud, un gros barbecue, là. Puis c'est ce genre de vin que vous allez sortir.
C'est un vin de junk food, effectivement.
Ouais.
C'est un vin... souvent, on a tendance à prendre des gros vins lourds, costauds pour manger un hamburger, un truc comme ça. Non, c'est tellement gras qu'on a besoin de l'acidité d'un vin comme ça pour...
Ouais. On lève notre verre à l'Afrique du Sud.
Oui.
Est-ce que j'ai pris trop de ton temps?
Ben non, pas du tout.
Ben non, pas du tout.
À peine. Alors, on termine ce balado dans l'Anjou Saumur, comme on l'a débuté, cette fois-ci en 100% Cabernet Franc sur l'appellation Saumur Champigny du domaine Le Petit Saint-Vincent. Dominique Saint-Joseph, qui est mieux connu sous le nom de Pélo, incarne la 4e génération de vignerons à la tête du domaine. Le domaine fait 12 hectares. L'ensemble des vignes sont des vignes de la propriété, donc il n'y a pas d'achat de raisins du tout. Et c'est des vignes qui sont âgées entre 35 et 85 ans. Et il y a un peu de vignes qui vont faire 100 ans également, des vignes centenaires, ce qui commence à être vieux pour la Loire, considérant l'avenue du phylloxéra en France, qu'on a déjà couvert par le passé. On est sur vraiment une vinification de Cabernet Franc dans le but de laisser le fruit, la typicité du cépage s'exprimer. À boire maintenant, qui pourrait nous donner des surprises dans le temps, là, mais on peut l'apprécier dès aujourd'hui. S'il n'y a pas de bois là-dedans, on est élevé dans les cuves de béton. La cuve de béton, oui, le béton qui est un peu l'évolution de l'argile, ni plus ni moins, qui va, on dit que par rapport, le béton par rapport à l'acier inoxydable va développer plus de fruits, plus de composants fruités et sapides dans le vin. Donc, c'est levé durant 8 mois. On est sur le millésime 2020. Après ça, donc, il y a un court élevage d'un an en bouteille. Et au nez, on est vraiment sur les arômes typiques d'un Cabernet Franc
de la Loire,
mais qui n'est pas en manque de maturité.
C'est vraiment très, très agréable. Et le Cabernet Franc là, de la Loire, ça, on parle de Chinon, on parle de Saumur, des Cabernet Franc aussi.
Saint-Nicolas de Bourgueil.
Ouais. On les oublie parce que il y a eu beaucoup d'approximations. Hein?
Beaucoup d'approximations et dans l'avènement des vins, vouloir faire des vins moins serrés, plus fruités, plus accessibles en jeunesse, ils sont un peu perdus.
Ils sont perdus, ouais.
Et là, on revoit des vignerons qui font comme bon, ben, on a la matière végétale intéressante, un très beau cépage, des vieilles vignes, et on est capable de faire quelque chose qui peut autant très, très bien s'ouvrir en jeunesse. Et se projeter aussi dans le temps.
Mais tu vois, moi je pense que c'est un des vignobles qui va bénéficier du réchauffement climatique, tout à fait, malheureusement. mais tu sais, je veux dire, le couvert végétal va devenir important, mais pas impartira pas des arômes, justement, de non-maturité. Là. Puis, pour vrai, se tromper avec un Saumur Champigny à 22$, pas très grave. Mais il n'y en a pas beaucoup à SAQ non plus.
Exact.
Des petits arrivages.
Exact. Là, honnêtement, rapport qualité-prix, on est... imbattable ici, puis dans un esprit hyper classique, mais aussi très qualitatif.
Ouais.
C'est vraiment une très, très grande réussite. Et encore une fois, on pourra finir là-dessus, c'est un vin qui a un poil de sulfite mis à la mise en bouteille, donc qui est techniquement nature. Et les cavistes, depuis les 10 dernières années, on n'a jamais mis de l'avant la notion de vin nature. C'est pas quelque chose qui nous distingue. Et nous, l'argument nature arrive toujours en dernier. Ces vins-là sont super bons. Ah, en passant, la qualité de la vendange était au rendez-vous. Donc, tout était parfait pour mettre le moins de sulfite possible. Donc, le sulfite qui est un antioxydant qui stabilise le vin et qui va nous amener avec un vin qui est techniquement très, très droit, qui n'a pas de refermentation en bouteille, qui n'a pas d'arôme fermier. Là, on pourrait repartir très, très longtemps sur le vin nature. Et avec ça, tout ce qui est grillade va très, très bien s'accompagner. On est aussi encore sur un vin, je le mets en guillemets, soif. Là. Disons que le Copper Pot Pinot Noir, il faut manger avec ça, ouais, selon moi. Mais si vous êtes moins acidité, comme on trouve dans le Samso, vous avez des vins un peu plus ronds, ça reste un vin qui peut se boire très, très bien tout seul.
Oui, tout à fait. Mais tu sais, côtelette d'agneau, marino, romarin, ouais. Avec ça, là, on part. Puis, non, c'est des beaux vins. En fait, c'est des beaux vins de vacances.
Oui, exact. Bravo, et ça, c'est le vin... Le sommet champignon, sur moi, c'est le vin parfait que tu te dis, oh, on ouvrirait une bouteille pour finir le repas. Non, mais c'est vrai. Cette bouteille qu'il ne faut pas ouvrir, ou que si on décide d'ouvrir, les assiettes se vident, il reste la moitié de la bouteille, on va la finir. C'est sûr et certain. Parce qu'il y a de la matière, il y a de la manche, il y a de la structure.
Et voilà.
Donc,
Tout est dit.
Donc, santé. J'espère que vous avez eu du plaisir, tout comme nous.
Merci beaucoup. Bonnes vacances à tout le monde, si vous ne l'êtes pas déjà.
On a une petite pause de un mois et demi, donc on se revoit la première semaine de septembre. Donc, au plaisir de vous revoir sous peu.
Merci.
Bye-bye.